France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver au programme du 5-6 de l'eau et du vin, portrait d'un plongeur professionnel qui s'enivre du grand bleu dans les chroniques littorales et rencontre avec un maire viticulteur à 6h moins le quart, il sera notre invité déjà debout. À 5h25, on traverse l'océan avec Charline Vanhoenacker, elle nous emmène aux États-Unis prendre des nouvelles des démocrates. Plus au nord, la playlist nous permet de retrouver une vieille connaissance, le Canadien Neil Young, qui est en concert bientôt. La philosophe et politologue Anna Arendt sera dans le Café Philo juste avant 6h. Et les petits bateaux nous diront qui a inventé l'argent.
France Inter.
Mais d'abord le premier journal, celui de Lou Momège. Bonjour Lou.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Le parquet national financier a tenu à se montrer ferme dans l'affaire du financement libyen.
Oui, 7 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité et 300 000 euros d'amende requis contre Nicolas Sarkozy hier. L'ex-président est reconnu comme le commanditaire du pacte de corruption conclu avec le dictateur Muammar Kadhafi. Pacte qui a permis à Nicolas Sarkozy de financer sa campagne présidentielle en 2007. Mais il continue de clamer son innocence, Sarah Guibaudot.
Le visage grave, fermé, Nicolas Sarkozy écoute sans broncher les dernières réquisitions du procureur qui dénonce la corruption jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Le pacte de corruption faustien qu'il aurait passé avec un des dictateurs les plus infréquentables. Le communiqué de Nicolas Sarkozy est prêt, diffusé dès la fin de l'audience. Il dénonce la fausseté et la violence des accusations et l'outrance de la peine réclamée. Il est acquis qu'il n'y a pas eu d'argent liquide utilisé dans ma campagne de 2007, affirme l'ancien président. De son côté, le ministère public conclut sur la nécessité de combattre l'impunité face à un prévenu qui ne semble pas comprendre la gravité des faits reprochés, malgré sa première condamnation définitive pour corruption qui lui vaut de porter un bracelet électronique. Celui qui est victime de l'injustice est moins à plaindre que celui qui la commet, conclut Nicolas Sarkozy, en choisissant une attaque directe contre le ministère public, pour tenter de faire oublier que le faisceau d'indices de l'accusation est constitué de témoignages et de faits bien réels.
Les deux anciens ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux, soupçonnés de complicité, pourraient eux écoper de 6 et 3 ans de prison après les réquisitions du parquet. Un complice présumé de Mohamed Amra interpellé en Thaïlande hier. L'homme de 24 ans est considéré comme un proche du narcotrafiquant qui aurait pu l'aider lors de son évasion en mai 2024. Évasion qui avait causé la mort de deux agents pénitentiaires au péage d'Incarville dans l'heure. Mohamed Amra avait alors fui la justice pendant 9 mois avant d'être retrouvé en Roumanie fin février.
Certains l'appellent le double de l'ombre d'Emmanuel Macron. Alexis Kohler va quitter ses fonctions.
Le secrétaire général de l'Élysée est resté fidèle au président depuis ses premiers pas à la tête du pays en 2017. Mais Alexis Kohler va quitter ses fonctions mi-avril pour rejoindre le privé à la Société Générale. Il sera remplacé par Emmanuel Moulin, ancien directeur du cabinet de Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre. Le ministère de l'Économie perquisitionné hier. Une information judiciaire a été ouverte pour des soupçons de blanchiment immobilier. Selon le parquet, des villas sur la Côte d'Azur étaient déclarées sous des prête-noms pour dissimuler l'identité du véritable propriétaire de nationalité russe. Un montage estimé à plus de 38 millions d'euros. Le Premier ministre doit lui détailler aujourd'hui la réforme de la formation initiale des enseignants. François Bayrou se rendra cet après-midi dans une école de Rueil-Malmaison, près de Paris, et avec à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Alors cette réforme, elle n'est pas nouvelle, Sonia Princey, et il y avait déjà eu des annonces en avril 2024.
Quasiment à la même date l'an dernier, c'est le président Emmanuel Macron qui s'était déplacé dans une école parisienne pour annoncer une réforme de la formation des enseignants. Depuis le début de son deuxième quinquennat, il disait vouloir remettre au goût du jour les écoles normales d'autrefois en recrutant les professeurs plus tôt. C'est pourtant au cours de son premier quinquennat que les concours de recrutement avaient été repoussés à Bac plus 5. La réforme présentée l'an dernier prévoyait de positionner ces concours à la fin de la licence à Bac plus 3, avec ensuite 2 années d'études et de pratiques professionnelles rémunérées. 1 400 euros net par mois en Master 1, puis 1 800 euros en Master 2. Mais la ministre de l'époque, Nicole Belloubet, n'avait n'avait pas obtenu les arbitrages budgétaires pour cette réforme qui coûtait très cher. Le projet avait donc été suspendu au cours de l'été. Elisabeth Borne l'a repris. C'est sur cette base que les syndicats sont conviés à partir de la semaine prochaine à des réunions de concertation, car il reste beaucoup de points en suspens, notamment le contenu de la formation et des épreuves des concours. Des concours nouvelle version que le Premier ministre François Bayrou devrait confirmer pour le printemps 2026.
D'après les syndicats de l'éducation nationale, le Premier ministre devrait effectivement reprendre l'essentiel de ce qui était prévu dans la réforme de l'an dernier. Emmanuel Macron reçoit le président libanais aujourd'hui. Première visite officielle en Occident pour Joseph Aoun après son élection en janvier. Les deux chefs d'État pourront parler des réformes politiques et économiques souhaitées par Beyrouth, qui cherche notamment le soutien de la France. Joseph Aoun veut également désarmer le Hezbollah, le groupe islamiste chiite libanais. Cette rencontre sera aussi l'occasion de joindre le président intérimaire syrien Ahmad El-Sharrah pour un entretien trilatéral, car récemment des tensions ont éclaté à la frontière entre le Liban et la Syrie.
Le vice-président américain J.D. Vance et son épouse Usha sont attendus aujourd'hui au Groenland.
Le couple est attendu effectivement aujourd'hui sur une base militaire américaine située au nord-ouest du territoire autonome danois. Au programme, un briefing sur la sécurité de l'Arctique, bien loin de la visite dans tout le territoire prévu initialement pour Usha Vance. Après les menaces d'annexion de Donald Trump, le Groenland voit cette visite comme une provocation. Le changement de programme a certes jeté un froid diplomatique, mais au fond, Louise Baudet, rien ne change pour le couple Vance.
Elle se faisait une joie d'assister à la grande course nationale de chiens de traîneau, d'apprendre davantage sur ce magnifique pays, sa culture, ses traditions, de célébrer le respect mutuel entre les deux nations. Problème, Usha Vance n'était pas invitée, d'autant que se joignait à sa visite privée un cortège d'officiels de haut niveau. Finalement, la Second Lady sera accompagnée de son mari, mais le couple devra se contenter de la base militaire américaine de Pitufik. 1600 km au nord de la capitale, moins pittoresque et moins risqué. Des activistes menaçaient de perturber une visite qualifiée de hautement agressive par le Groenland. En toile de fond, la convoitise de Donald Trump réaffirmée ces dernières heures.
Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale et internationale. Et donc je pense que nous irons aussi loin que nous devons aller.
Sauf que le Groenland n'est pas à vendre, rappelle la première ministre danoise Mette Frederiksen.
Le Groenland appartient aux Groenlandais et le Groenland fait partie du royaume du Danemark et cela ne changera pas.
Et pendant ce temps, Vladimir Poutine juge les plans de Trump sérieux et s'inquiète que l'OTAN considère le Grand Nord comme un tremplin pour d'éventuels conflits.
Louise Baudet pour France Inter. Une énième mesure inquiétante de Donald Trump. Le président américain a signé cette nuit un décret pour retirer des musées toute idéologie inappropriée selon ses termes. Cela concerne surtout les musées de l'institution de recherche scientifique Smithsonian, notamment le musée de la culture afro-américaine à Washington. Trump accuse ces établissements de réécrire l'histoire du pays avec des biais féministes ou antiracistes.
Et en tennis, c'est la fin du Masters 1000 de Miami pour Arthur Fils.
Et oui, parvenu jusqu'au quart de finale, le Français de 20 ans s'est incliné face au Tchèque Jakub Mencik hier soir. Numéro 1 en France, Arthur Fils visait la première qualification de sa carrière en demi-finale d'un Masters 1000.
C'était le journal de Lou Momège. À tout à l'heure, Lou, il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Un temps à nouveau humide, mais toujours doux, Elodie Calac.
Retour de la pluie sur le nord-ouest, une perturbation pluvieuse circule ce matin sur la Bretagne et la Basse-Normandie. De belles éclaircies vont revenir cet après-midi avec un vent de nord-ouest sensible, mais les pluies vont progresser vers les Charentes, l'Orléanais, la région parisienne et le Nord-Pas-de-Calais. Pour le moment, c'est souvent gris sur ces régions avec des brouillards en prime ce matin. Sur le nord-est, quelques brouillards, mais ça ne dure pas, le soleil s'impose vite. Plus au sud, c'est nuageux avec des éclaircies appréciables, plus timide tout de même au sud de la Garonne avec encore quelques averses. Quelques averses aussi cet après-midi vers les Alpes. Un peu de neige vers 1700 mètres. En Méditerranée, là, le soleil brille largement au prix du vent, jusqu'à 70 km à l'heure pour le Mistral, 90 pour la Tramontane. Les températures ne changent pas beaucoup. Il fait souvent 1 à 6 degrés ce matin, 8 à 12 de l'Aquitaine à la Méditerranée. Cet après-midi, 12 degrés à Cabourg, 14 à Lille, 15 à Paris, Nantes et Limoges, 16 du côté de Lyon, 17 à Mulhouse, à Montauban et 20 à Montpellier ou à Bastia.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le
Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter. On s'enivre d'eau avec un plongeur docteur en océanologie dans les chroniques littorales. On parlera vin notamment, mais aussi mandat de maire avec notre invité déjà debout à 6h moins le quart. Il sera aussi question des divorces gris dans la chronique d'où ça sort, et on parlera des bleus, les démocrates américains, avec Charline Vanhoenacker qui explose les faits. Ça sera à 5h25. Mais avant les chroniques littorales, plongeons dans la musique avec ce trio venu de Chicago, Horse Girl, et ce titre Switchover. Switchover de Horse Girl en concert le 18 juin prochain au Petit Bain à Paris. 5h13, les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées, comme toujours, à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un célèbre plongeur.
En la personne de François Sarano. François Sarano, bonjour.
Bonjour José-Manuel.
Alors François Sarano, vous êtes docteur en océanologie. Et surtout, on vous connaît comme plongeur professionnel. C'est là où tout a débuté.
Oui, oui, la plongée. La plongée, c'est d'abord la jouissance de l'eau. La jouissance de pouvoir voler dans les trois dimensions. Quand on a des bouteilles sur le dos, eh bien on peut ajuster son volume avec sa respiration et devenir plus ou moins dense ou plus ou moins léger. Et ça, c'est incroyable. Il suffit d'une... une expiration, oui. Et tout d'un coup, on devient lourd, lourd, comme du plomb, et on pique, et on pique, et on pique à toute vitesse vers le fond, et au moment où on va s'écraser sur ce rocher, ouf, respiration, tout d'un coup, on est léger, et on s'élève, et hop, on survole le rocher et on va vers le jardin de Gorgone qui est là-bas. Hop, doucement, petite expiration, on plonge vers le banc de poissons, puis comme on ne bouge pas de membres, pas de palmes, on se glisse au milieu de lui. Petite inspiration encore, et là, on est entouré complètement en haut, en bas, dessous, de côté, par ces poissons. On se laisse dériver dans le courant et on se mêle au vivant. C'est ça, la plongée sous-marine. Après ça, on peut découvrir tout ce qui se cache sous la surface. Et surtout, plongeur, on est le témoin privilégié de tout ce qui est caché à 99,9% des hommes par cette fameuse surface miroir de l'océan. Et puis, encore une fois, peu de gens mettent un masque. Mettez un masque. Reconnaissez les animaux. Nommez-les. Nommer, c'est commencer une histoire. Et essayez de les reconnaître après. Et tout d'un coup, vous allez vous sentir proche d'eux. Vous allez les aimer. Et vous allez vraiment avoir envie de les protéger. C'est extraordinaire de regarder le monde riche, exubérant que la mer peut nous offrir dans les endroits où on n'a pas trop saccagé.
Est-ce que les profondeurs vous enivrent ?
Oui, les profondeurs m'enivrent. Moi, la plongée que je préfère, c'est la plongée dans le grand bleu. Lorsque tout d'un coup, on est au large, il y a plusieurs milliers de mètres sous les palmes, et là, on peut descendre dans ce grand bleu infini. Il vous avale. Et les jours où il y a grand soleil, et à midi, le zénith, les rayons du soleil percent la surface, et ils vont tous converger à une vingtaine de mètres sous vos palmes. Quand vous êtes à 20 mètres, il converge à 40 mètres. Et ça fait comme un grand diamant. Et ce point lumineux, il vous attire, il vous happe, et vous vous laissez couler. Mais quelle jouissance d'être là, dans ce bleu extraordinaire.
Et votre bleu à vous, c'est le bleu méditerranéen, atlantique, pacifique, indien ?
Ah, le bleu méditerranéen est inégalable. Mais j'aime bien le bleu indien, parce que j'y retrouve nos amis cachalots, Elliot le cachalot, et quand il remonte des fonds, lui, il revient de 1500 mètres de profondeur et que tout d'un coup, il nous interpelle. Alors, on danse dans cet infini bleu. C'est une jouissance parce qu'il y a communion. On est dans le même monde. On est dans son monde d'abord. Et puis, quand on est dans le bleu, qu'il n'y a pas de sol, qu'il n'y a pas de rien autour, la communion est totale. Bon. Évidemment, il faut faire attention aux profondeurs. Non, respectons les règles. Tout se fait dans le respect absolu des règles de la plongée.
Merci à vous, François Sarano, pour vous retrouver et retrouver vos combats pour sauver l'océan. Longitude181.org.
Merci José Emmanuel.
Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José Emmanuel Lamarque.
Le 5-6 sur France Inter.
Et à 5h17 sur France Inter, on fait le tour des unes de la presse ce matin. Et cette image des auto-tamponneuses qui revient dans plusieurs journaux après l'annonce du président des États-Unis qui va imposer une surtaxe de 25% à toutes les importations de véhicules sur son territoire. Libération a fait en une un montage. Donald Trump au volant d'une petite voiture, un jouet, la Trump Mobile, c'est ce que dit la plaque d'immatriculation. Il roule sur une carte des États-Unis et salue de la main Trump et les droits de douane, l'auto tamponneur, titre Le Quotidien. Même idée en une de l'opinion, hein. Donald Trump en auto-tamponneuse sur les dessins de CAC percute la voiture bleue étoilée de dirigeants européens plutôt secoués. À gauche, le titre est plus sobre. Trump met l'Europe dos au mur, les 27 n'ont plus droit à l'erreur, est-il écrit. L'idée d'un choc est présente aussi en une des échos, c'est l'automobile mondiale sous le choc. En Europe, dit le journal, l'Allemagne compte sur la France pour répliquer au président américain. Auto et droits de douane, on en parlera dans le débat écho à 8h moins le quart ce matin sur France Inter, avec un autre choc, celui de nos débatteurs Thomas Porcher et Dominique Seux. Les échos encore développent un autre sujet d'actualité, c'est d'ailleurs la photo de une, ces dirigeants européens alignés sous une verrière à l'issue du sommet de 31 pays européens et l'OTAN consacré à l'Ukraine. Les Européens au chevet de l'Ukraine, annoncent les échos. Paris et Londres prennent la tête du soutien à Kiev, annonce de son côté le Figaro, qui préfère toutefois consacrer sa photo de une à un homme en costume sombre, petites lunettes et cheveux grisonnants. Alexis Kohler, depuis 10 ans, bras droit, deuxième cerveau d'Emmanuel Macron. Il est question aussi d'enfants et de violences en une des journaux. Qui a tué Émile, s'interroge encore une fois le Parisien aujourd'hui en France, alors que les gardes à vue des grands-parents du petit garçon mort en juillet 2023 ont été levés. Châtiment corporel, hein, s'il en recule, titre de son côté La Croix. Et alors que les hebdos nous offrent plus de
joie, Alyosha Schneider, le chanteur, en une des Echo magazines sous le titre Cordes sensibles. Le jeune homme joue de la guitare. L'irrésistible ascension de la basket, analyse dans le Parisien Week-end. Et en une du Figaro magazine, la sublime Eva Longoria, veste blanche et sourire éclatant, sous-titre La dynamique de l'optimisme. C'est tout un programme. À 5h19, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, on parle séparation des couples âgés. Ça s'appelle les divorces gris. Alors Cyril, les divorces gris, d'où ça sort ?
En 1960, dans le monde, les gens mouraient en moyenne à 52 ans et demi. Aujourd'hui, l'espérance de vie s'est allongée de 20 ans. D'où ça sort les divorces gris ? Eh bien déjà de là, du fait qu'on vive plus longtemps et donc qu'on puisse divorcer au-delà de la cinquantaine. Ce n'est pas la seule explication, bien sûr. L'envie de désirer quelqu'un d'autre ou d'être désiré par quelqu'un d'autre. La lassitude du couple, la difficulté de se retrouver à deux une fois les enfants partis ou quand la retraite arrive et qu'on ne sait plus vraiment quoi faire, juste tous les deux, autant de raisons dont on va parler dans cette émission. Mais si on divorce plus après 50 ans, aujourd'hui qu'avant, c'est aussi et surtout parce qu'on s'en sent plus le droit qu'avant. Moins de pression sociale, plus d'autonomie économique, particulièrement évidemment pour les femmes, et plus d'opportunités de rencontrer un autre amour.
Et comment est né le mot alors, Cyril ?
Eh bien, on le doit à la AARP, l'Association américaine des personnes retraitées. C'est elle qui invente cette notion en 2004, c'est donc pas nouveau, mais c'est le moment où, aux États-Unis, ce phénomène a commencé à être observé. Là-bas, il existe ce qu'on appelle la silver economy, l'économie des personnes âgées, c'est-à-dire toute une industrie tournée vers les quinquas et plus, et avec elle aussi la démocratisation du divorce. Grey Divorce sera ensuite popularisé par les chercheuses américaines Susan Brown et Yves Fenley en 2012 dans une étude intitulée « The Graying of Divorce ». Alors, qu'est-ce que ça raconte de notre époque, cette grisation du divorce, si je veux traduire comme ça, littéralement ? Pourquoi cette liberté nouvelle ? Quels sont les profils de celles et ceux qui divorcent après 50 ans ? Faut-il tout simplement arrêter de se marier ?
Et toutes les réponses dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. De retour tous les deux à 16h cet après-midi, il sera question, entre autres, de la chute du mur de Berlin en 1989. 5h21 sur France Inter. Dans un instant, l'humour de Charline Vanhoenacker. Mais d'abord, à quoi tu penses ? Question familiale posée par les Souchon, père et fils.
À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? Est-ce qu'un jour c'est fini, fini la comédie? Chanter après minuit, place de la mairie. Les premières rumbas la nuit, un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini, fini?
Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? Sept ans de réflexion, une robe qui vole. Sept ans de passion, on pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles. Faire des chansons, console.
Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête.
À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? C'était mieux avant, même si c'est pas vrai. J'avais tout le temps, je l'avais.
chanteur à 20 ans, les cheveux emmêlés. J'étais dans le vent et ce vent m'allait.
C'était Ours, Alain et Pierre Souchon. À quoi tu penses ?
France Inter.
Et à 5h24, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Et mercredi, elle s'interrogeait sur la paralysie des démocrates aux États-Unis.
Opposition inaudible et divisée. Et pour une fois que c'est les Américains qui copient les Français. Mais au moins en France, la gauche représente encore l'opposition. Bon, l'opposition elle-même, mais ça la rend audible. Alors je me suis intéressée aux démocrates parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, la seule façon qu'ils ont de résister pour l'instant, c'est de rayer des Tesla. Alors peut-être que le soir des résultats, les démocrates ont commencé par se dire bon, on n'a qu'à attendre que Trump fasse une énorme connerie. Et puis on lui tombera dessus. Bon, mauvaise idée, parce que là, l'opposition ne sait plus par quelle boule prendre. Alors, moi j'ai bien une petite idée de par quelle boule prendre Donald Trump, mais il faut d'abord que je passe acheter un sécateur. Alors, les démocrates américains ont opté pour une méthode plus soft, ils attendent tout simplement la chute de l'administration Trump. Ok, mais pour que les gens tombent, il faut les pousser un peu. Hein. Pas de la politique, ça c'est de la physique. On dirait qu'ils attendent le bon moment pour ça, parce qu'ils sont là, Trump veut déporter les étrangers. Attendons un peu, il est capable de faire pire. Non mais il supprime toutes les données scientifiques. Pas de précipitation, ça pourrait être pire. Ah, la Floride veut faciliter le travail des enfants pour remplacer les migrants sans papier. C'est considéré comme plus pire ça ou pas? Alors je suis tombée sur cette info ce matin, un projet de loi a été déposé, donc là je sais pas si les démocrates devraient pas se manier un peu le cul quand même. Facile à dire ou même juste vraiment nous donner un signe de vie. Ça me donne l'impression que l'opposition est en arrêt cardiaque, mais que c'est Trump qui tient le défibrillateur. Et là si je supprime l'aide internationale, une réaction? Non, bon je continue. Et là je vire la moitié des fonctionnaires? Toujours rien. Rien pour l'instant, bah les démocrates forcément sont dans le même état que la démocratie. Alors c'est tellement facile je trouve pour Trump en ce moment, parce que comme il n'a même pas besoin d'insulter l'opposition de son pays, il peut se concentrer à 100% pour insulter les Européens, les Canadiens, les Mexicains, les Ukrainiens. Et quand on voit que le seul qui semble résister à ce nouveau gouvernement, Bernie. C'est Bernie Sanders, oui. Mais oui, 83 ans.
Et ses moufles.
Eh ben, il les a retirés enfin ses moufles. Il les a retirés, il est en pleine mobilisation contre l'oligarchie. Et alors là, un coup d'état en déambulateur, ça va faire mal. Voilà, parce que si c'est sur les épaules de Bernie Sanders que pèse tout le destin de la démocratie américaine, le monde est à un limbago de sombrer dans le totalitarisme. Faut l'aider, là. Je sais pas, c'est qui l'égérie de la gauche européenne? Cohn-Bendit, oui. 80 ans, le pionnier du wokisme. Ah, j'ai écouté ce matin, il est passé à la tisane ou quoi? On l'entend même plus gueuler, quoi. On est foutus. Hein. Ah, peut-être que la gauche américaine fait maintenant comme toutes les gauches du monde. Il donne plein d'espoir aux gens. Ils perdent des élections, ils se déchirent pour savoir qui est responsable, ils reperdent des élections et après une longue traversée du désert, ils gagnent enfin un scrutin. Voilà, donc dans ce cas-là, il n'y a même plus besoin de programme, il faut juste un petit peu de patience, ça pourrait être pire.
France Inter. Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi 9h45 et demain samedi à 19h20 pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
Ce dimanche, Hélène Darroze passe à table.
Dimanche, 11h, François-Régis Gaudry.
Ma grand-mère, à 4h, elle nous faisait un sandwich au foie gras. Et le pire, c'est qu'on lui demandait de sortir le petit truc noir là qui était au milieu, qui n'était autre que de la truffe.
De son enfance dans les Landes au plateau de Top Chef, en passant par sa carrière internationale, la chef aux 6 étoiles Michelin est notre invitée exceptionnelle.
Les masterclass dont va déguster...
Avec Hélène Darroze, c'est ce dimanche, à partir de 11h.
5h28 presque sur France Inter. Et qui rentre dans ce studio?
C'est mais oui, qui donc?
Mais qui donc, devinez? C'est mais Ali oui. Badou qui
c'est
vient
moi-même.
Nous rejoindre. Et pour un avant-goût du 6-9, bonjour Ali.
Bonjour Marion. Au programme aujourd'hui à 6h20, le premier invité de la matinale à l'occasion du 18e congrès de médecine générale à Paris sera le président du collège de médecine générale, Paul Frappé, qui nous racontera son métier. Et puis à 8h moins le quart, le débat éco autour d'un sujet brûlant, les droits de douane décidés par Donald Trump. Trump a-t-il vraiment tout faux? Thomas Porcher et Dominique Seux s'affronteront sur la question. Et quant à 8h20, dans le grand entretien, il sera question de l'Ukraine, évidemment, après le sommet avec Jean-Dominique Mercher, qui est journaliste à l'Opinion et spécialiste des questions de défense, et Isabelle Lasserre, qui est journaliste et éditorialiste au Figaro. Elle a longuement interviewé le président Zelensky lors de son passage à Paris. Avec eux, nous verrons ce qu'on peut espérer, peut-être enfin la paix.
Ah oui, quelle belle fin pour ce teasing de la matinale. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Ali.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. France Inter, il est 5h29. C'est l'heure du journal avec Lou Momège. Bonjour Lou.
Bonjour. Bonjour à tous.
Au procès du féminicide de Chaynaise, le prévenu sera fixé sur son sort aujourd'hui.
Mounir Bouta est jugé devant la cour d'assises de Gironde depuis le début de semaine pour avoir brûlé vive sa femme en 2021. Chaynaise Daoud, qui avait pourtant déposé 3 plaintes l'année juste avant le drame. Le verdict est attendu en fin de journée. Les parents de la victime s'y préparent et vous les avez rencontrés, Antoine Liffaut.
Ils froncent les sourcils devant la salle d'audience, les parents de Chaynaise Daoud, ulcérés par les déclarations de Mounir Bouta.
Il n'a même pas eu des remords ou une conscience de dire « j'ai fauté ». C'est une personne abominable.
Elle m'a fait beaucoup de mal, c'est fatigué.
Il est en train d'assassiner une deuxième fois ma fille.
Si celui qui a été leur gendre dit regretter avoir brûlé vive leur fille le 4 mai 2021, il rabâche que c'est alors pour la punir de ses infidélités supposées.
Un homme qui s'attaque à une femme, c'est un homme, non? Je ne crois pas qu'un homme s'attaque à une femme. Le vrai homme, il défend les femmes.
Il n'a rien parlé, une chose de vraie.
Chaynaise reste l'amour de ma vie, clame Mounir Bouta devant une salle stupéfaite, lui que les psychiatres dépeignent comme un paranoïaque.
Il ne mérite pas ma colère. Ma colère, elle a plus de valeur que sa lâcheté.
Ils espèrent un verdict sévère en guise d'exemple.
Je le souhaite perpète.
C'est simplement pour qu'il n'y aura plus de Chaynaise. Chaynaise ne reviendra plus, mais pour donner un exemple à certains hommes, pour qu'il n'y aura plus d'antirinaise.
Depuis le drame, ils s'occupent des 3 enfants de leur fille. Âgés de 9 à 17 ans, ils restent loin de la cour d'assises. Leurs grands-parents se demandent maintenant comment leur raconter ce procès.
Antoine Liffaut au procès de Mounir Bouta dans la Gironde. 7 ans de prison requis hier contre Nicolas Sarkozy. Le parquet estime qu'il a noué un pacte de corruption avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi afin de financer sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy a contesté l'intégralité des faits. Les 2 anciens ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux, soupçonnés de complicité, pourraient eux écoper de 6 et 3 ans de prison. Les réquisitions sont également tombées au procès de Gérard Depardieu. Le procureur a requis hier 18 mois de prison avec sursis contre lui, alors que l'acteur est jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes en 2021. Gérard Depardieu nie toutes les accusations, malgré des témoignages accablants qui se sont succédés à la barre pendant les 4 jours de l'audience. Le verdict sera rendu le 13 mai prochain.
Le président libanais a choisi la France pour sa première visite officielle en Occident.
Élu en janvier, Joseph Aoun rencontre aujourd'hui Emmanuel Macron dans l'espoir d'amorcer des réformes politiques et économiques dans son pays, comme le désarmement par exemple du groupe islamiste Hezbollah. Un entretien est par ailleurs prévu en visioconférence entre les 2 chefs d'État et le président syrien par intérim. Une réunion trilatérale pour discuter notamment de la sécurité à la frontière entre le Liban et la Syrie, où des affrontements ont éclaté récemment.
L'Allemagne tremble depuis une énième hausse des droits de douane par Donald Trump.
Le président américain a annoncé mercredi soir 25% de taxes supplémentaires à partir de la semaine prochaine pour tous les véhicules qui ne sont pas produits sur le territoire américain. Sauf que cela a de quoi inquiéter le pays de l'Union européenne qui exporte le plus de voitures. À Berlin, Sébastien Baer.
Porsche, 1 voiture sur 4 vendues sur le marché américain. Mercedes, BMW, 1 sur 6. Les États-Unis, premier client de l'Allemagne à l'international. Mais pour combien de temps, s'interroge Dirk Schulze, directeur régional du syndicat IG Metall.
Si les droits de douane augmentent de 25%, alors qu'ils sont à 2,5% aujourd'hui, on peut imaginer qu'une voiture coûtera 10 000 ou 15 000 dollars de plus. Il y aura plus de réticence à acheter. Cela va faire perdre des débouchés non négligeables aux entreprises allemandes ou européennes.
Ces droits de douane pourraient faire chuter de moitié les ventes aux États-Unis de Volkswagen, BMW et Mercedes. Pour les constructeurs, les difficultés s'accumulent, analyse Andreas Kni, professeur à l'Université technique de Berlin.
L'industrie automobile allemande a déjà perdu des parts de marché considérables sur le marché chinois parce qu'elle a construit les mauvaises voitures et s'est accrochée trop longtemps aux moteurs à combustion. Aux États-Unis, les chiffres de vente étaient aussi en baisse. Et voilà que la politique douanière du président Trump rend la situation encore plus difficile. C'est un clou de plus dans le cercueil de l'industrie automobile allemande.
Pour échapper aux droits de douane, les constructeurs pourraient accroître à terme leur production aux États-Unis. En attendant, ils n'auront pas d'autre choix que d'augmenter leurs prix et se résigner à vendre moins de voitures sur le marché américain. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
Et face à ces nouveaux droits de douane, le Canada menace les États-Unis de représailles économiques. L'étroite collaboration entre les deux pays, c'est fini, a même déclaré le Premier ministre canadien Mark Carney hier soir. Le roi Charles III ne pourra pas assurer ses rendez-vous du jour. Le souverain britannique souffre d'effets secondaires de son traitement contre le cancer. Il a dû brièvement être hospitalisé hier matin, mais a pu regagner sa résidence privée dans la journée.
C'était le journal de Lou Momège. Bonne journée, Lou. La météo de ce vendredi à 5h34, c'est le retour de la pluie sur le nord-ouest, Bretagne et Basse-Normandie. Pluie précédée de brouillard parfois dense des pays de la Loire et du nord de la Nouvelle-Aquitaine au nord de la Seine. Cet après-midi, ce passage pluvieux traversera le Poitou-Charentes, le centre, la région parisienne, les Hauts-de-France. À l'arrière, prévoyez un temps variable, belles éclaircies et rares averses. Sur le sud-ouest, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, le ciel sera changeant. Le soleil brillera en revanche sur les régions méditerranéennes, mais au prix du vent jusqu'à 100 km/h de tramontane et de mistral la nuit prochaine. Ce matin, il fait moins 2 à 12 degrés. Prévoyez 12 à 22 cet après-midi. 12 à Cherbourg, 13 à Brest, 14 à Rennes et Lille, 15 à Paris, Clermont-Ferrand et Biarritz, 16 à Lyon, Bordeaux et Nancy, 17 à Perpignan et Strasbourg, 18 à Ajaccio et 19 à Marseille.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, vous nous parlez du retour annoncé du solitaire Neil Young.
De l'honneur le plus américain des Canadiens. Vous imaginez dans quel état il est depuis ces derniers mois. Ouais. Neil Young qui vient d'annoncer une tournée mondiale, Love Earth, qui passera par la France en juillet. En attendant d'aller le voir en concert, on pourrait peut-être traîner un peu au bord de la rivière.
Oui.
Pourrait m'entraîner sur l'arc-en-ciel et m'envoyer loin. Down by the River, une chanson aigre-douce hein, sur la mort et l'amour conjugués au plus près. Sortie en 69 avec son groupe Crazy Horse. Elle fera peut-être, elle est probablement partie de son répertoire pour la prochaine tournée de Neil Young avec son nouveau groupe. Il n'est pas venu en France, il n'était pas venu depuis un moment. Je crois que ça fait presque 10 ans, la dernière tournée remonte à 2016. Il est attendu, celui qui, non content de continuer à jouer à 79 ans, se bat contre la hausse des prix des places de concert. Vous savez, la pratique des tarifs dynamiques. Celui qui refusait à Donald Trump d'utiliser sa musique lors de ses meetings et qui lutte contre les pipelines qui défigurent le paysage fait donc son grand retour pour une date unique en France cet été, le 13 juillet. Alors on danse.
Allez.
Never thought love had a rainbow on it. Used to think a cloud was a nightmare. That was up until when I first met you. I go around hoping you care. Dance, dance, feel it all around you. Dance, dance, dance.
Dance, dance, dance. Une chanson parue, elle aussi, il y a des années, 1971, souvent reprise en concert, dans différentes versions, mais que Neil Young vient de dévoiler sous un jour nouveau, Mathieu.
Oui, depuis quelques années, Neil Young exhume, vous le savez, une quantité impressionnante d'archives, d'inédits. La Neil Young Official Bootleg Series et vient de paraître Oceanside Countryside, un recueil de chansons enregistrées entre mai et septembre 77, entre Oceanside en Floride et la campagne, le Countryside, donc, à Nashville. Des chansons, vous l'entendez, folk, country, qui ensuite sont apparues ici ou là dans des versions différentes, mais désormais réunis pour la première fois en vinyle dans leur mix, dans le son, la prise de son d'origine. Je vous propose d'écouter la chanson Pocahontas où vous l'entendrez, le traitement du son est très singulier, il y a des bruits d'animaux, le son du vent. Si vous écoutez l'entretien qu'il avait accordé à Mishka Assayas pour France Inter, vous comprendrez l'importance du son aussi chez Neil Young.
Icy sky at night, paddles cut the water in a long and hurried flight from the
Qui est en concert à l'Adidas Arena à Paris le 13 juillet 2025 cet été. Donc la billetterie est ouverte depuis hier. Et ce soir, alors Mathieu, vous nous ferez entendre Neil Young encore ?
Évidemment, et puis je vous parle aussi de toute l'actualité musicale. Il y aura aussi Kate Tempest, du rap français, des sons du Nigeria, de Bayonne,
ou
des Antilles aussi.
Drôle de mélange.
Et je remets le son à ce soir, 21h.
À ce soir. À 5h41, le zoom de la rédaction nous emmène en Turquie. Ce matin, des manifestations anti-gouvernementales secouent le pays depuis 10 jours et l'arrestation du populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, accusé de corruption. C'est surtout le principal opposant à Erdogan pour la prochaine présidentielle. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Marie-Pierre Vérou.
Bonjour.
Correspondante de France Inter à Istanbul, ce mouvement de contestation, Marie-Pierre, est mené par la jeunesse et par les étudiants.
Ils ont la vingtaine à peine, voire moins. Ils n'ont jamais connu qu'Erdogan au pouvoir. Et tous le disent, leur combat est plus grand qu'İmamoğlu. Il dépasse le sort du maire d'Istanbul, insiste Ulaş.
C'est pas seulement İmamoğlu. İmamoğlu est le déclencheur. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans la prison pour absolument rien. Il n'y a pas de justice en Turquie. Si tu dis ce qu'ils veulent, c'est très bien, tu es magnifique. Ils t'aident, mais si tu penses pas comme eux, c'est très difficile de devenir quelque chose en Turquie, de soi, dans un métier très bien, dans un place très bien. On doit lutter contre ça, je pense.
La liberté d'expression, la liberté tout court, la démocratie, la justice, c'est ce qu'ils crient haut et fort dans les rues, sur les places, par dizaines de milliers depuis plus d'une semaine. Dans le parc de la démocratie, sur la rive européenne du Bosphore, les étudiants de tous les campus se sont donné rendez-vous pour une longue marche. Ils dansent en moquant Erdogan, ils crient leur ras-le-bol, comme cet étudiant en psychologie de 22 ans. On l'appellera Mehmet. Comme beaucoup, il préfère ne pas donner son nom. Comme tous, il est masqué pour ne pas être identifié par la police.
On n'en peut plus, on ne supporte plus cette situation. Ça va très mal, on n'a plus de liberté, on ne peut pas boire de bière, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller à des concerts. On veut notre jeunesse qu'ils nous ont volée il y a 20 ans. On sait ce que l'on veut, tous les gens ici le savent. Vous pouvez l'entendre, cela ne va pas s'arrêter, cela ne doit pas s'arrêter.
C'est pour avoir un avenir que Meliha, 18 ans, en fac de communication, se mobilise chaque jour.
Oui, c'est entre nos mains, nous les jeunes, les étudiants, nous sommes debout pour que ça change. Ils essaient de voler les rêves de la jeunesse et nous, aujourd'hui, on dit stop. Nous sommes tous les jours dans les rues, on affronte la police, nous sommes décidés à faire tout ce qui est en notre pouvoir. Nous irons jusqu'à la révolution.
La police aussi a durci sa réponse. Vague d'arrestations, violente répression des cortèges, Ahmet le reconnaît.
Je dois dire la vérité, on a peur, mais le gouvernement ne peut pas mettre toutes les personnes en prison, donc jusqu'à la dernière personne, on va essayer. Ils frappent énormément, c'est pas juste de défendre, mais ils attaquent.
Lui-même a été battu à coups de matraque, juste, dit-il, parce qu'il portait une pancarte.
J'avais une pancarte dans mes mains, j'étais juste à côté des polices, ils ont commencé à frapper, c'est ça.
Et il y avait quoi sur votre pancarte décrit ?
La jeunesse, c'est le changement. Rien de radical, le gouvernement n'accepte pas les jeunes parce qu'on a besoin de changement. C'est pas juste le président, c'est le système.
Un système où règne l'arbitraire, où aucun avenir n'est envisageable, dénoncent en chœur les étudiants.
Et ce mouvement, Marie-Pierre, c'est le plus important depuis celui du parc de Gezi à Istanbul en 2013, quand des manifestations anti-gouvernementales avaient menacé le régime d'Erdogan. C'est une référence dans les cortèges ?
Ah, elle est omniprésente. Si les manifestants se disent descendants d'Atatürk, ils se revendiquent aussi comme héritiers de Gezi, eux qui étaient enfants lorsque le mouvement a été écrasé, et ils veulent reprendre ce flambeau pour réussir. Mehmet n'en doute pas.
Gezi, c'était sur la place Taksim. Nous, nous sommes partout dans le pays. Nous sommes plus nombreux, nous sommes plus forts, une nouvelle génération. Et nous essayons de faire mieux que Gezi. Gezi, c'était une bonne chose, mais ils ont attaqué la police. La police a riposté et elle est plus forte. C'est elle qui a les armes et tout ça. Nous, nous voulons rester pacifiques. C'est ainsi que l'on vaincra.
Les plus militants sont partisans d'une radicalisation. Seule façon, selon eux, de mettre à bas un régime qui contrôle tous les leviers de pouvoir. Les étudiants turcs inventent chaque jour de nouvelles formes de mobilisation. Ils changent de lieu, salués par la population. Sur leur parcours, résonnent concerts de casseroles et klaxons de soutien.
En Turquie, les étudiants fer de lance de la contestation. C'était le Zoom de Marie-Pierre Véraud à écouter sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Et à 6h moins le quart, il est l'heure de contacter notre invité déjà debout, un homme aux multiples casquettes à Bourg-Charente en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Jérôme Sourisseau.
Bonjour.
Vous êtes maire, président de la communauté d'agglomération de Grand Cognac et viticulteur. Pourquoi êtes-vous déjà debout ?
Oh, je suis debout parce que voilà, des multiples occupations m'imposent de me lever très tôt pour gérer les mails, les dossiers, avoir un petit peu de temps tranquille pour travailler avant d'attaquer vraiment la journée, entre guillemets.
Et à quoi elles ressemblent alors vos matinées, vos petites matinées ?
Eh bien, bon, en général, je suis à mon bureau jusqu'à 8 heures pour traiter les mails de la veille que je n'ai pas eu le temps de traiter ou de travailler sur le fond des dossiers. Et puis ensuite, eh bien, j'enchaîne. Alors, suivant, quand c'est la période de distillation en tant que viticulteur, je suis à la chaudière à 6 heures à peu près pour charger ma chaudière de vin pour distiller, pour faire du cognac. Et puis ensuite, eh bien, j'enchaîne les réunions, soit à la mairie, soit à l'agglomération, gré des différents sujets, de quelques activités associatives qui se greffe aussi par-là dans la journée, tout en surveillant l'alambic qui doit, on doit y revenir, même s'il y a des automates, y revenir très régulièrement.
Ah oui.
Oui, revenir à midi pour faire la coupe, ce qu'on appelle, puis revenir le soir pour la recharger pour la distillation de nuit, et ce 24 heures sur 24.
Alors la distillation, c'est pas en ce moment, c'est ça ?
Eh bien, moi, elle est terminée, c'est-à-dire que c'est une distillation qui se parcourt, qui se fait entre le, on va dire à peu près le mi-octobre jusqu'au 31 mars. Mmh. Ceux qui ont beaucoup à distiller vont aller jusqu'au 31 mars, mais surtout, on n'a pas le droit de dépasser cette date-là. Moi, j'ai fini il y a quelque temps déjà cette année. Voilà.
Alors, cette activité de viticulteur, c'est peut-être celle qui correspond le plus à votre formation, puisque vous avez été prof de chimie.
Eh ben exactement. En fait, voilà, ben c'est une exploitation agricole familiale qu'avaient mes parents. Puis quand ils ont pris leur retraite, j'ai décidé de l'assumer. Alors même si je suis avec un associé et que vu mes engagements, je suis pas tous les jours dans les vignes, loin de là. Hein, je le reconnais. Par contre, je fais tout ce qui est la gestion de la structure et puis une partie de la distillation. Mais effectivement, je suis agrégé de chimie et puis j'étais enseignant, chef d'établissement scolaire, avant de me mettre en disponibilité pour l'exercice de mes mandats. Qui m'occupe bien.
Ouais. Et viticulteur, ça veut dire aussi chef d'entreprise, négocier des aides, faire la promotion de la région aussi. Vous êtes maire depuis 2008. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ?
Eh bien, il se trouve que je suis maire dans le village où je suis né, hein, puisque malgré...
Bourg-Charente.
Bourg-Charente, exactement. Alors Bourg-Charente, c'est pas très connu, mais il y a un produit qui est très connu, c'est que le Grand Marnier, qui se vend dans le monde entier,
oui,
est tout fabriqué à Bourg-Charente. Voilà, ça c'est connu par contre, mais personne ne sait vraiment d'où ça vient. Et donc, moi, je suis né dans ce village où j'y ai toujours été très investi. Alors, je suis parti quelques années en tant qu'enseignant, pendant 5-6 ans en banlieue parisienne. Et puis, je suis revenu, et comme l'ancien maire avait décidé d'arrêter en 2008, eh bien, j'ai fait une liste et je me suis présenté aux élections où j'ai été élu maire et où j'ai été réélu depuis, puisque ça va faire 27 ans, oui, que je suis, pas 27 ans, pardon, 17 ans, que je suis maire.
On dit souvent que le maire, c'est peut-être l'élu qu'on préfère, mais c'est aussi celui qui a porté de baffe, vous le constatez ?
Ah, complètement, et j'ai bien vu l'évolution en 3 mandats, moi, par exemple. Je dis souvent, mon petit neveu, quand on lui demandait « qu'est-ce qui fait ton oncle ?», il disait « bah, c'est le chef du village, je crois ».
Comme un bras raccourci.
Voilà, et j'aime bien cette expression dans le sens pas chef, mais c'est vrai que je suis dans une commune où je connais quasiment tout le monde parce que j'y suis né, et j'y suis très investi, j'y vis, évidemment. Et ce côté-là d'être sollicité, de rendre service, d'accompagner, ou de se faire un petit peu engueuler, si vous me pardonnez l'expression, oui, effectivement. Alors, c'est vrai que par contre, en 3 mandats, on a bien vu l'évolution des gens plus exigeants, plus intransigeants, voulant des choses très rapidement, toujours un peu suspicieux, qu'on soit plus d'un côté d'un autre que impartial. Ça, c'est un petit peu difficile, mais il y a aussi de nombreux bons côtés, sinon j'ai longtemps que j'aurais arrêté.
Jérôme Sourisseau, maire, président de Grand Cognac et viticulteur, vous nous appeliez donc de Bourg-Charente. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci, bonne journée, au revoir.
Et à 5h50, la réponse à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Aujourd'hui, Auguste s'intéresse à une des bases de notre civilisation.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, pièces, billets, cartes bleues.
Bonjour, je m'appelle Auguste et J'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi on a inventé l'argent.
Pourquoi on a inventé l'argent, Bruno Collin, vous qui êtes spécialiste de la monnaie, vous êtes historien. Que répondez-vous à ce petit Auguste ?
Alors tout d'abord, on va essayer de remonter un peu le temps et de nous placer durant la période de la préhistoire. Les Homo sapiens vivent en petites communautés de quelques dizaines d'individus. Les échanges, c'est ce qu'on appelle la dette sociale, c'est-à-dire chacun savait ce qu'il devait. Je te donne un lapin, tu vas me donner quelque chose, etc. Mais on est dans une petite communauté, donc ça ne pose pas problème particulier. Chaque personne doit quelque chose à toutes les autres, donc il y a un équilibre qui se crée et ensuite on solde les comptes régulièrement. Mais avec l'accroissement de la population, apparaît le troc dans les communautés. Et au néolithique, les populations se sédentarisent.
Donc ça, c'était il y a 10 000 ans,
c'est ça,
à peu près.
Et donc là, on est dans une période où les gens commencent à pratiquer l'agriculture, l'élevage, et également une spécialisation progressive des activités, c'est-à-dire forgerons, potiers, etc. Donc le troc devient rapidement insuffisant pour les échanges, car trop limité. Donc on revient sur à quoi sert l'argent, justement. Pourquoi on crée cet argent ? Eh bien parce que tout d'abord, c'est une unité de compte qui permet de mesurer facilement les valeurs des biens très différents.
C'est-à-dire que ça fait un peu comme des références, quoi.
C'est ça.
Ça permet de ne pas se faire arnaquer, en fait,
tout
quelque
à fait.
Part.
De ne pas se faire arnaquer et puis d'avoir un équivalent. Mmh. C'est-à-dire combien je vais vendre ma vache, combien je vais vendre mon mouton, mes œufs, etc. Voilà, donc c'est une unité de compte. Deuxièmement, c'est un instrument de paiement. Donc je vais acheter, effectivement, je sais que ma vache, elle va valoir telle quantité d'argent et je vais pouvoir, avec cet argent, acheter ma vache alors que moi, je n'ai rien à donner en échange. Et troisièmement, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire que, effectivement, je vais pouvoir mettre cet argent de côté et puis ensuite pouvoir le dépenser plus tard. Donc, je vais le stocker quelque part. Et quand je dis argent, ce n'est pas nécessairement la pièce métallique. Par exemple, les coris. Donc, les coris, ce sont des coquillages qui étaient utilisés comme monnaie dans tout l'hémisphère sud. Il y avait des banques qui gardaient, pour le compte des personnes, des réserves de ces coquillages qui servaient ensuite de paiement. Donc, ce n'est pas uniquement de la monnaie métallique. Donc, sans argent, on ne peut pas évaluer la valeur des biens. On ne peut pas payer, et comment fait-on pour stocker son épargne ? Donc, d'après l'historien grec Hérodote, pourquoi on a inventé l'argent ? Parce qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, dans ce royaume qui s'appelait à l'époque la Lydie, donc à l'ouest de la Turquie, un souverain qui régnait sur ce royaume, qui s'appelait à l'époque Crésus.
Ah, donc Crésus, forcément.
Voilà, Crésus, donc riche comme Crésus, s'est rendu compte que pour l'utilité du commerce, ils avaient besoin d'avoir un élément qui soit extérieur aux objets du commerce eux-mêmes. Comme il se trouve que son royaume était traversé par un fleuve qui s'appelait le Pactole, donc l'expression toucher le Pactole, et que dans ce fleuve, le Pactole, on trouvait des paillettes d'or et d'argent, il a fait fondre ces paillettes d'or et d'argent en petits globules sur lesquels il a apposé sa marque et qui ensuite ont servi de référent pour payer. C'est là que est né l'argent, et voilà pourquoi c'est apparu au 7e siècle dans cette région.
Et tout en découle aujourd'hui, de ce pactole.
Absolument,
donc.
Depuis le 7e siècle.
Eh bien, merci Crésus, et salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli Radio France.
Salut Camille Cronier, vous revenez juste après le journal de 20h.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de déguster notre café philo avec Patricia Martin. Bonjour Patricia.
Bonjour Marion Lourd.
Vous voulez nous parler d'une jeune fille venue d'ailleurs aujourd'hui. De qui s'agit-il ?
Une jeune fille venue d'Allemagne est devenue une grande dame de la philosophie, même si elle préférait qu'on la considère plutôt comme une politologue que comme une philosophe. Hannah Arendt, c'est elle. Connue dans le monde entier pour ses écrits sur le totalitarisme, pointée du doigt pour son attachement à Martin Heidegger, et critiquée pour ce qu'elle a appelé la banalité du mal au sujet du criminel nazi Adolf Eichmann. Et là-dessus, on a fait un parfait contresens, elle s'en est expliquée, mais jamais elle n'a voulu dire qu'il y avait du Eichmann en chacun d'entre nous. Mais c'est un autre aspect de ce personnage hors du commun que je voudrais évoquer.
Et là, j'imagine qu'il s'agit de l'exil d'Hannah Arendt, parce que c'est une composante très forte de sa vie, Patricia.
Vous imaginez bien, c'est une expérience fondatrice. Elle était allemande, elle était juive. Hannah Arendt.
Le 27 février 1933, il y a eu l'incendie du Reichstag. Il a été suivi, dans la nuit même, par de nombreuses arrestations illégales, ce qu'on appelait les détentions préventives. Comme vous le savez, les prisonniers finissaient dans les caves de la Gestapo ou en camp de concentration. Ce qui s'est passé là était monstrueux. Mais aujourd'hui, c'est souvent occulté par les événements qui ont suivi. Pour moi, le choc a été immédiat. À partir de ce moment-là, je me suis senti responsable. J'ai réalisé qu'il était impossible de rester spectatrice.
Impossible donc pour elle de rester en Allemagne. Alors elle s'est exilée aux États-Unis, l'épisode est connu, mais avant cela, elle est venue vivre à Paris de 1933 à 1941. La vie du réfugié en France, vous vous en doutez, était kafkaïenne. Le contexte historique effrayant, on notera d'ailleurs avec effroi les incroyables similitudes avec notre époque. Bref, pourtant Hannah Arendt gardera un doux souvenir de ces années, 8 longues années assez heureuses pendant lesquelles elle ne cessera de se battre pour les autres et pour la liberté. Elle a vécu au milieu d'une petite bande d'exilés, une tribu, comme elle le dira, une tribu assez géniale. Il y avait son mari, il y avait l'essayiste Arthur Koestler ou Benji. Benji, c'est le philosophe Walter Benjamin, je prononce à la française. Entre tous ces parias, quelque chose d'indéfectible, le génie de l'amitié entre une entraide vitale, et c'est une question politique là, et puis aussi philosophique, qui soutiendra au fond toute sa vie sa pensée.
Et deux invités ce soir dans leur philo, donc pour évoquer Hannah Arendt, Patricia. Paria, Hannah Arendt et sa tribu en France, ça c'est un essai qui est signé Marina Touillez et paru aux éditions L'Échappée, elle sera donc avec vous, en compagnie de Martine Lebovici, co-autrice d'un numéro de L'Erne consacré à Hannah Arendt. À ce soir Patricia.
À ce soir Marion.
À 20h.
Il y a très longtemps, en Grèce, Ulysse, l'homme le plus connu, le plus glorieux, a disparu totalement.
Samedi, 11h, Pierre Judet de Lacombe.
Ulysse traverse des épreuves, aussi bien sur mer que sur terre, et il s'en sort toujours. Il s'use, se consume, il vieillit, parce que pendant des années, il n'a qu'une seule idée, sauver ses proches et sauver sa peau. Nous essaierons de nous y retrouver dans ces errances labyrinthiques.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Tous les samedis à 11h sur Inter.
France Inter, partenaire de Peaky Blinders, The Redemption of Thomas Shelby, actuellement à la scène musicale. Le spectacle événement de Stephen Knight, créateur de la série culte. Avec les danseurs de la compagnie britannique Rambert, enfin à Paris. Peaky Blinders, The Redemption of Thomas Shelby, actuellement à la scène musicale. Un spectacle France Inter.
5h58.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Et bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Et oui, il est revenu lui aussi. Le temps change.
Pas très loin.
Heureusement. Le temps change pour aujourd'hui.
Oui, à commencer par le nord-ouest ce matin. C'est là qu'est en train d'arriver la perturbation pluvieuse qui a traversé une partie du pays. Les premières averses arrivent sur le Finistère en ce moment. Elles concerneront ce matin, on l'entend, la pluie qui tombe, vous entendez ?
Ah oui, j'entends.
Clic, c'est bloc, magnifique.
Clic, bloc. C'est, on a des grands moyens. Les premières averses donc, sur le Finistère, elles concerneront ce matin le Cotentin également. Elles vont se décaler dans l'après-midi vers les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la région centre, le bassin parisien, l'Île-de-France. En Île-de-France, elles devraient arriver, ces averses, aux alentours de 16h, en fin d'après-midi. Mmh. En les attendant, le ciel va rester couvert, bien gris, avec parfois des brouillards assez denses. Pour le reste du pays, c'est chargé encore ce matin, du Massif central au sud de la Garonne. Ça lui plaît, Ali, la pluie qui tombe.
J'adore dans le studio.
Avec toujours un petit peu de pluie au pied des Pyrénées. Puis cet après-midi, du sud-ouest au Grand Est, enfin, on aura un ciel
trempés,
changeant.
Hein.
Oui, bah, prenez votre parapluie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Avec une alternance de nuages, d'éclaircies, un risque d'ondées sur les Alpes du Nord, le Massif central et le Sud-Ouest. On aura un petit peu plus de soleil quand même sur le quart Nord-Est et surtout près de la Méditerranée avec un vent toujours fort.
Et c'est toujours bien frais ce matin.
2 à 6 degrés en général, un petit peu moins dans le Nord-Est où on peut avoir quelques gelées. 4 à 8 degrés dans le Sud-Ouest, c'est un petit peu plus élevé, jusqu'à 13 degrés près de la Méditerranée. Cet après-midi, la moyenne ira de 12 à 17 degrés, ça baisse un petit peu sous la perturbation. 17 à 20 degrés encore près de la Méditerranée.
Merci Céline Dacosta. Et Ali, vous êtes donc de retour et vous allez nous donner le programme du 6-9 ce matin.
Le programme du 6-9 à 7h moins le quart, le débat éco à ne pas manquer autour des droits de douane formidables décidés par Donald Trump et qui mettent en émoi toute la filière automobile mondiale. Et à 8h20 dans le grand entretien, vous verrez l'Ukraine et ses possibles espoirs avec nos deux invités Isabelle Lasserre et Jean-Dominique Mercher.
Bienvenue sur France Inter, il est 6h.